up and I'm like, Mom, like, where, how are we supposed to do this? And so I had to sleep on the pull-out table of the place.
I remember that. I remember getting a text from you one night, one random night in December, and you're like, I'm sleeping on a table tonight. No context, absolutely no information. How'd you sleep that night?
It was brutal. And there was also, what do you call it, a taxidermy deer above my head. And so my mom called Airbnb to complain, and she was like, there is a desiccated animal over my head. My daughter slept on a table. Even though it was literally her fault for booking the Airbnb, but we don't talk about that.
Thanks to everyone who donated to CKUT's annual funding drive. Your generosity truly helps keep our engines burning. It's never too late to donate. You can do so by calling 514-907-9424 or going to ckut.ca and hit the green Make a Pledge button at the top. All paid entries will be entered into a grand prize draw. You can pay your pledge and pick up your gift weekdays between 11 to 6 p.m. or by appointments. Call 514-907-9424. Thank you.
The following is a previously broadcast program.
Écoutez le magazine Dignité Noire, présenté par Mbayaji Mbayriway. Au sommaire, cette semaine.
Mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission Dignité Noire sur CKIA 88.3 FM. Nous sommes le 21 mars 2022, le début de printemps et la journée internationale de lutte contre les discriminations. Donc ça commence aujourd'hui. La semaine d'action contre le racisme au Québec. D'ailleurs, ça va faire l'objet de l'émission. Vous pouvez toujours nous suivre sur 88.3 FM, ainsi que sur notre page Facebook, Dignité Noire-CKIA FM. Si vous manquez nos émissions, c'est pas grave. Elles sont toutes archivées en balado sur www.ckiafm.org. Ceux qui n'ont pas de radio, etc., vous pouvez nous suivre directement sur notre page Facebook aussi. L'émission se passe en direct. Vous avez une centaine d'émissions produite et animée par une 163 bénévoles gratuitement pour vous. Fait que n'hésitez pas à aller sur notre site web, écouter toutes les belles productions que nous faisons. Aujourd'hui, je suis toujours en compagnie de mon fidèle compagnon Brice. Salut Brice, comment vas-tu?
Je vais bien, merci beaucoup.
Très, très intéressant aujourd'hui. Hein. C'est la première fois depuis plusieurs mois qu'on vient au studio en pleine journée. Là.
Ouais, c'est vrai.
Ça fait du bien. L'avantage du printemps. Au sommaire ce soir. Donc, la semaine d'action contre le racisme qui est célébrée jusqu'au 31 mars, je reçois Madame Samira Laouni, coordonnatrice de l'organisme Semaine d'action contre le racisme, pour en parler tantôt. Et puis après elle, je vais recevoir Brice. Ça fait un peu bizarre de te recevoir, Brice. Alors, Brice, qui est notre promoteur, metteur en onde, est aussi promoteur d'un site internet qui s'appelle Trésor Afro. Un site internet à l'exemple de Panier Bleu, qui donne de la visibilité aux entrepreneurs noirs de la ville de Québec. Et puis, je vais en parler avec lui de ce projet et ainsi qu'avec une entrepreneur de Montréal, Madame Sende Naka, qui est aussi inscrite sur ce site internet. Fait qu'on va en discuter. D'où vient l'idée, à quoi ça répond, quelles sont leurs attentes, etc. Puis, évidemment, l'idée, c'est de publiciser ce site internet pour que vous, consommatrices et consommatrices, y alliez. Recherchez ce que vous voulez. Si vous voulez consommer africain, arabe, latino, asiatique, peut-être que vous allez avoir de quoi vous mettre sous la dent. Et ainsi que des services aussi. Hein. Madame Sende Naka, par exemple, elle est naturopathe, je crois. C'est Naturo Sendi. C'est une entreprise de soins, etc. Fait qu'on va en parler tantôt. Mais tout de suite, allons à Montréal rencontrer Madame Samira Laouni. Bonsoir, Madame Laouni.
Bonsoir, monsieur Mbem. Bonsoir à tout le monde, à vos auditeurs et auditrices.
Ben, bienvenue à Québec, même si c'est à distance.
Oui.
Ben, vous êtes habitué.
On est habitué avec la pandémie.
C'est ça, vous êtes habitué aussi à venir à Québec, tout ça, je pense.
Oui, tout à fait.
Vous n'êtes plus à présenter, mais c'est ça, pour vos, pour nos auditeurs et auditrices, vous êtes coordonnatrice de la Semaine d'Action contre le racisme, qui est un organisme aussi, hein, c'est un événement, mais c'est aussi un organisme basé à Montréal.
Non, pas spécifiquement Mbeye. La Semaine d'Action contre le racisme est pour l'égalité des chances, c'est le nom de la semaine.
Ok.
D'accord. On a gardé l'acronyme qui a été créé en 1999 pour ne pas le changer pour le branding, mais sinon, durant le 20e anniversaire en 2019 de la SAC, on a rajouté « et pour l'égalité des chances ». Donc, c'est la semaine d'action contre le racisme et pour l'égalité des chances. Okay, ce n'est pas un organisme.
Oui.
C'est un événement qui est chapeauté par le syndicat, le Centre international de documentation et d'information haïtienne, caribéenne et afro-canadienne.
Ok, donc c'est pas un organisme comme tel là pour vous. J'ai l'impression que c'est un organisme aussi. Parce que...
Non, okay. Ce n'est pas un organisme comme tel.
Ouais, ouais, c'est ça. Je connais l'événement, l'aspect événementiel, là, je savais, mais je pensais que vous aviez créé un organisme à cet événement. Parfait. Donc, vous allez nous expliquer un peu ça là, tout à l'heure, là, comment ça s'organise.
Alors,
mais laissez-moi vous introduire à nos auditeurs.
Okay.
Vous présenter qui est Mme Laouni. Alors, Mme Laouni est très active, surtout en tant que présidente de communication, ouverture, rapprochement interculturel. Elle est conférencière et consultante. Toute son action vise le rapprochement entre les Québécoises et les Québécois de toute origine. Féministe convaincue, elle a milité pendant plusieurs années au sein de la Fédération des femmes du Québec. Elle fait la promotion de l'égalité entre toutes et toutes, femmes et hommes, minorités et majorités. Elle a présenté plusieurs mémoires en commission parlementaire. Elle coordonne depuis 2016 la semaine d'action contre le racisme. Alors, juste avant d'entrer dans le vif du sujet, là, parce que nous, à l'émission, à notre émission, on aime parler aux jeunes racisés aussi, les motiver à s'impliquer, tout ça. Vous, j'ai abrégé votre bio, là, parce que vous avez une longue bio. Qu'est-ce qui vous motive pour vous engager tant? Je peux citer, hein, vous avez fondé le corps que je viens de dire, vous avez cofondé la table de concertation contre le racisme systémique, la semaine de sensibilisation musulmane, la Québécois musulman pour les droits et libertés, les jeunes intellectuels sportifs et responsables, responsables, etc. Qu'est-ce qui vous motive afin d'inspirer les jeunes arabes, noirs, latinos, asiatiques qui nous écoutent là?
Ok, alors moi étant Marcel Brigitte et avoir vécu plus d'une dizaine d'années en France pour faire mes études supérieures jusqu'à arriver au doctorat à la Sorbonne, en arrivant ici, je me suis dit jamais je laisserai les enfants vivre ce que les deuxième, troisième, quatrième générations françaises vivent en France. Donc, dans les quartiers, les banlieues, dans les ghettos et tout ça, j'ai dit il faut absolument que mes enfants soient des Québécois et des Canadiens à part entière. Et depuis l'année 2000, j'ai vu la dégradation du climat, en fait, du climat social, de cette polarisation de plus en plus grandissante à cause de plusieurs choses, à cause de la venue des médias sociaux, à cause de l'internationalisation de l'information, à cause de certains médias qui tablent sur réellement le sensationnalisme et puis les titres vendeurs, à cause de certains politiciens, pas tous les politiciens, mais certains politiciens, certaines politiciennes qui avant allaient chercher des votes sur le dos des minorités visibles et des minorités racisées. Donc, tout ce climat-là néfaste, cette augmentation de la haine, des propos haineux, des injures, de l'intolérance, du rejet de l'autre, fait de moi que de plus en plus ça s'agrandit et de plus en plus chez moi l'envie de militer contre le racisme, contre le rejet, contre les stéréotypes, contre les préjugés envers les autres, quelle que soit la différence, qu'elle soit une différence due au sexe, au genre, dû à l'orientation sexuelle, dû à la langue parlée, dû à la façon dont on parle la langue, parce qu'on parle tous français, mais pas tous avec le même accent, dû à la couleur de peau, en tout cas. Toutes les différences, pour moi, un handicap ou n'importe quoi, toutes les différences ne font pas... Oui, c'est des différences, Mais il n'en demeure pas moins, comme l'a dit tout à l'heure au lancement, le maire de Laval, M. Stéphane Boyer, il a dit que nous sommes des humains et que nous avons tous en tant qu'humains les mêmes besoins et on a les mêmes inspirations. Et donc si juste on peut tous se mettre d'accord sur ça, sur cette prérogative-là, que nous sommes tous des humains, et que oui, chaque humain a sa petite différence, mais que malgré les différences, on peut travailler une nation, travailler au sein d'un projet commun, je pense qu'on pourra résoudre les problèmes. Ce que je pourrais dire aux jeunes, c'est que soyez fiers de ce que vous êtes, soyez fiers de ce comment vous êtes. L'important, c'est que vous soyez de bons citoyens, de bonnes personnes. Je ne peux pas dire que tous ils doivent être des médecins, des avocats, non. Mais avec des métiers, avec une instruction intellectuelle, quand même. Il ne faut pas être analphabète, il faut aller à l'école, il faut s'instruire, il faut apprendre. Et avec ça, je pense que nos jeunes pourront prendre le flambeau, parce que comme vous dites, ma bio est assez longue, je commence à vieillir moi aussi.
Oh, vous êtes encore jeune, Madame Laouni, on attend beaucoup de vous.
Écoutez, quand on dépasse la cinquantaine, on est plus jeune. Donc, il faut qu'on passe le flambeau, il faut que les jeunes prennent ce flambeau-là, il faut que les jeunes continuent le militantisme. Tout à l'heure, j'ai regardé, j'ai participé à une activité de la Ligue des Noirs de Québec, oui, où ils ont projeté un film, mais vraiment un documentaire extraordinaire, où j'ai vu toutes les manifestations, même ici à Montréal, à la suite de la tuerie de George Floyd, et puis Joyce Echaquan, et puis tout ça. Et là, je vois cette jeunesse qui milite, cette jeunesse qui se mobilise, puis je me dis, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir parce qu'on ne veut plus se faire piétiner. Ce n'est pas parce que nous sommes différents qu'on peut accepter de se faire dire qu'on est une femme noire ou qu'on est une femme musulmane avec le foulard ou qu'on est une trans ou qu'on est X, Y, Z. Il n'y a pas de raison. On est tous pareils en termes de citoyenneté, de droits et de liberté.
Très inspirant. Votre parole est aussi inspirante que votre parcours, Madame Laouni. J'espère que les jeunes vont vous écouter. C'est important, je pense que vous insistez beaucoup sur l'éducation et l'engagement citoyen. C'est très important pour les jeunes. Si nos aînés ne s'étaient pas engagés, nous n'aurions pas l'Amérique du Nord que nous avons aujourd'hui. N'est-ce pas ? L'Amérique du Nord était basée sur la ségrégation. Aujourd'hui, il y a moins de ségrégation parce qu'il y a des citoyens, des grands frères, des grandes sœurs qui s'étaient engagés. Nous avons l'obligation d'assurer le relais. Alors, parlons de la semaine d'action contre le racisme. Donc, juste pour les gens qui nous écoutent, là, qui ne savent pas c'est quoi la semaine d'action contre le racisme, le 21 mars a été choisi comme la journée de lutte contre les discriminations en mémoire des personnes qui ont été massacrées en Afrique du Sud dans la ville de Sharpeville, dans le township de Sharpeville le 21 mars 1960. Donc les Nations Unies ont décidé de faire de cette journée la journée des commémorations contre les discriminations. Comment ça s'organise au Québec là? Là, il y a à Montréal, là, vous l'organisez, mais j'ai l'impression que chaque ville fait un peu sa petite chose aussi. Comment ça s'organise au niveau de la ville de Québec? Alors, pour les personnes qui ne savent pas c'est quoi la semaine là.
Ok. Alors, en fait, au début, dans les années 1999, ça a commencé par un colloque à l'UQAM où Franz Wolter, Alix Laurent, le fondateur, etc., se sont rassemblés pour faire un colloque à l'UQAM pour contrer le racisme. Mais depuis, chaque année, ils ont pris sur eux, à l'époque, il n'y avait même pas de financement, il n'y avait rien du tout, mais vraiment de façon très bénévole, ils ont pris sur eux chaque année de répéter, de perpétuer cette tradition-là, de célébrer la semaine d'action contre le racisme, et comme je vous ai dit, et actuellement, et pour l'égalité des chances. Donc, on en est à la 23e édition. Donc. Et depuis, année après année, et puis moi j'ai commencé mon bénévolat avec la SACRE en 2011 et puis j'ai continué et je suis devenue la coordonnatrice officielle en 2016. Depuis 2016, chaque année, je coordonne cette semaine-là. Okay. Et moi, mon plan d'action que j'ai présenté au conseil d'administration du CIDICAM, du Centre international de documentation et d'information haïtienne, caribéenne et afro-canadienne, Le plan d'action que je leur ai proposé, c'est que je voulais que la SAC n'était pas juste un fait montréalais. Oui, Montréal, la ville de Montréal est leader. Elle a le leadership dans ce domaine-là par rapport à toutes les autres villes. Elle a été la première à signer la convention pour la charte, en fait, contre la discrimination et le racisme. Elle a été, la mairesse de Montréal a été quand même la première à se tenir debout pour dire que la discrimination et le racisme ont un caractère systémique, ce qui est refuté par le gouvernement actuel du Québec.
Exact.
Donc, Montréal, il n'en demeure pas moins qu'elle reste une ville leader dans le domaine de l'antiracisme. Maintenant, moi, je vois que le racisme n'est pas seulement à Montréal. Tout au contraire, le racisme, il est dans les régions où les gens ne connaissent pas la diversité, dans les régions où les gens ne côtoient pas la diversité. Ce qui s'est passé à la Grande Mosquée de Québec ne s'est jamais passé à Montréal. Donc, c'est une question qu'on doit se poser. Donc, c'est plutôt à Québec qu'il doit y avoir justement des activités et des actions pour contrer le racisme. Toujours est-il, pour l'instant, on a commencé à grandir quand même. Depuis que je suis là en 2016, on a eu cette vision-là. J'ai eu l'accord du conseil d'administration, donc j'ai commencé à contacter les autres villes. On a des activités qui se passent au Rouyn-Noranda, au Lac-Saint-Jean, à l'Abbé-James, au Saguenay, à Chicoutimi, à Shawinigan, à Trois-Rivières, à Windsor, à Québec, à Sherbrooke, à Gatineau. Donc, on a commencé quand même à s'étaler à travers le Québec.
Est-ce qu'il y a un réseau, là? Est-ce qu'il y a un réseau entre tous ces organisateurs ou c'est indépendant?
Alors, le réseau, c'est la SACRE. C'est la SACRE qui à chaque fois, réseaute avec tous ces organismes-là, avec les villes aussi, les hôtels de ville de chaque ville dont j'ai prononcé le nom.
Oui.
Et on essaye de faire en sorte de les mobiliser, de les inciter, on leur donne le matériel communication, on leur fournit la thématique, on les aide. Par exemple, au Rouyn-Noranda, à la Mosaïque, ils avaient besoin d'une exposition sur le racisme. On leur a envoyé l'exposition physique, que nous avons des caricatures sur le racisme. On travaille beaucoup à Rimouski, etc. Donc, on travaille beaucoup pour fournir le matériel nécessaire pour les organismes qui en ont besoin, mais aussi pour donner, par exemple, des conseils, pour les suivre, pour leur donner de la visibilité, pour leur donner nos réseaux, leur fournir accès à nos réseaux de distribution, etc. Donc, c'est comme ça qu'on agit actuellement. C'est certain que moi, ma vision personnelle, et puis le CA me suit dans ça, c'est que prochainement, que toutes les villes s'organisent pour qu'à la même heure, à la même minute, qu'il y ait le lancement de la SACRE partout dans les grandes villes,
magnifique.
Ne serait-ce que dans les grandes villes du Québec.
Ça serait magnifique. À Québec, là, c'est un nouvel organisme, ça s'appelle. Avant, c'était le REPAC, mais là, c'est la coalition, je pense, de lutte, d'action et de lutte contre le racisme qu'ils organisent. Je pense qu'ils ont fait le lancement aujourd'hui, quelque chose comme ça. Là. Mais j'ai invité une, je les ai invités, mais je pense qu'ils ont d'autres conférences de presse parce qu'ils ont lancé leur campagne de socio-financement ce matin. Bref, mais c'est très bien ce que vous faites. Moi, je pense que Montréal, c'est un peu comme le bateau amiral hein, de toutes ces
luttes. C'est ça, c'est le leadership. C'est le leader.
Parce que le nombre, vous profitez, il y a une masse critique à Montréal aussi là, qui est assez influente. Donc, je pense que c'est bien que vous aidiez. Là, la thématique de cette année, c'est l'accueil des réfugiés.
Alors,
et des migrants
la thématique
au Québec.
De
Pourquoi?
Cette année, c'est l'accueil des réfugiés. C'est l'accueil des réfugiés et des migrants. Donc, l'accueil des personnes réfugiées et des personnes migrantes.
Qu'est-ce que vous
au
visez
Québec
à travers cette thématique-là?
Alors, c'est vraiment une petite coïncidence, mais pas vraiment, parce qu'on s'est réunis depuis le mois d'août dernier, qu'on a commencé nos réunions. Pour choisir la thématique avec les membres du conseil du conseil consultatif que vous pouvez trouver sur la page web www.sacre.ca à notre équipe ou à la fenêtre notre équipe, vous pouvez trouver tous les organismes membres de ce conseil consultatif. Et on a commencé à réfléchir sur la thématique et on se disait qu'il y avait des possibilités, puis que les Afghans, tout ce qui s'était passé en Afghanistan, quand les Américains ont quitté, les Canadiens ont quitté, donc toutes les personnes réfugiées qui ont été laissées, il y en a certains qui ont été laissés pour compte en cours de chemin, ouais. Et on a dit on va discuter, et pas seulement ça, et on a vu aussi pendant la période pandémique, toutes les personnes qui étaient sans statut, qui n'étaient pas encore régularisées en termes de papier, ici au Canada, au Québec, qu'elles avaient beaucoup de problèmes, elles peinaient à travailler pendant la pandémie, surtout quand il y a eu les couvre-feux, parce qu'elles risquaient de se faire arrêter, et donc de se faire contrôler leur identité, et peut-être de se faire refouler dans leur pays d'origine. Qu'ils avaient fui pour X raisons, ou des raisons politiques, ou des raisons de guerre, ou des raisons climatiques, instabilité sociale, etc. Donc, et on avait dit, nous on était partis sur la problématique des Afghans, et puis des réfugiés que nous avons ici au Québec et qui peinaient à avoir les mêmes droits et les mêmes qualités de travail, d'accès à l'emploi, ici au Québec, pendant la période pandémique, pendant les conditions sanitaires. Et là, il y avait quelqu'un, un des membres du conseil consultatif, ironiquement, il a dit, mais l'Ukraine s'en vient peut-être, n'oubliez pas, il y a des tensions là-bas entre la Russie et l'Ukraine.
Ouais.
Et on y est.
Ah oui, malheureusement.
Malheureusement. Donc on a été visionnaire, on n'est pas très fiers de cette vision-là. Bon, c'est pas nous qui faisons la guerre. Non.
Mais vous avez pris les devants pour sensibiliser les gens, ça c'est quand même bien, je pense. Il faut sensibiliser les gens à l'accueil des réfugiés aussi.
Et donc, voilà. Et pour nous, c'est un sujet hyper important. Comme je vous dis, même si on veut oublier, si on se renferme sur nous-mêmes et on se dit juste ce qui se passe au Québec, ben, ce qui se passe au Québec n'est pas rose pour les personnes réfugiées, les personnes demandeurs d'asile. Ça, c'est certain que ce n'est pas rose pour ces personnes.
Est-ce que vous, est-ce que à Montréal, là, je ne sais pas si c'est le, est-ce que la Semaine d'action contre le racisme ou le CDI, ça, le CDICA travaille sur ça?
CDICA.
Le centre de détention de Laval, là, il y a des conditions. Moi, j'ai entendu des choses horribles là, dans ce centre-là. Je ne sais pas si le CDICA suit un peu ce dossier-là. Le centre de détention de Laval, c'est là où on détient les personnes demandeurs d'asile qu'on veut renvoyer dans leur pays d'origine.
Oui, c'est plutôt la TCRI, c'est la table de concertation pour les personnes réfugiées et immigrantes qui a le
mandat de faire le suivi.
Le mandat de suivre ces dossiers-là. Et puis, on a le CRAR aussi, le CRAR de Fauniemi qui suit aussi ces affaires-là.
Le centre de recherche et action contre le racisme, je pense.
Exactement, exactement. Ce n'est pas vraiment la mission du CDICA, okay. Mais il n'en demeure pas moins que nous, à la SAC, c'est-à-dire que pour les activités de la SAC, on essaie de sensibiliser à toutes les problématiques, que ce soit les problématiques de détention, que ce soit les problématiques d'accès à l'éducation. D'ailleurs, le 23, en tout cas, demain, on commence le colloque, le 22, demain, 5 à 7, et puis le 23, de 10h à 16h, ça va être une conférence et des ateliers. Et parmi les ateliers, nous avons un atelier sur l'emploi, et donc l'employabilité des personnes réfugiées et immigrantes, et puis un autre atelier sur l'accès à l'éducation. Donc, et là, on va parler des problèmes que rencontrent les personnes réfugiées ou les personnes demandeurs d'asile qui n'ont pas encore un statut régulier. Comment on fait pour leurs enfants? Qu'est-ce qu'il advient de leurs enfants pour l'accès à l'éducation, qui est un accès universel?
Ça veut dire qu'actuellement au Québec, les enfants des familles réfugiées n'ont pas accès à l'éducation gratuitement?
Pas réfugiés. Tant qu'ils n'ont pas encore les papiers réguliers, les parents ont peur d'envoyer leurs enfants à l'école pour ne pas se faire retrouver.
Ouais.
Et donc, c'est comme un cercle vicieux. C'est comme le chien qui se mord sa queue et puis ça tourne en rang. Puis on ne sait pas par où ça va commencer et par où ça va se terminer. Donc, c'est ces problèmes-là que nous essayerons de débattre lors de ce colloque-là pour voir est-ce qu'il y a des pistes de solutions, est-ce qu'il y a des recommandations à faire auprès des gouvernements, des organismes, des institutions paragouvernementales qui s'occupent de ces dossiers-là. Donc, on va voir pendant le colloque, on va voir, on va déchiffrer tout ça. Et puis, j'invite le monde qui nous écoute à se connecter sur notre page Facebook de la SACRE ou sur le lien Zoom. Ça va être en hybride, ça va être diffusé et sur Facebook, Zoom et en présentiel pour les personnes qui sont à Montréal.
Parfait. À part ce colloque-là qui est très important et qu'on invite les auditeurs et auditrices à suivre, est-ce qu'il y a d'autres activités phares de votre programmation? Vous avez fait le lancement ce matin, vous en parliez, là, c'est à Laval, là, je pense que vous parlez du maire de Laval, oui. Je ne sais pas. Fait que vous avez fait le lancement aujourd'hui.
Le maire de Laval était présent. En fait, on a fait ça en virtuel, donc c'est tout le monde. Okay. Il y avait Longueuil, il y avait Laval, il y avait Montréal, il y avait partout dans
sauf Québec. D'habitude, Québec, ils sont pas très, les élus de Québec, là, ils sont pas très... c'est difficile avec nos élus ici. Hein.
jusqu'à maintenant, on n'a pas encore eu une réelle adhésion. Et pourtant, j'ai écrit pareil au maire de Québec. J'ai écrit à un conseiller de Québec. Et j'ai pas obtenu de réponse, malheureusement.
Nous, on est habitués, on les connaît, on lutte ici beaucoup. Le racisme, c'est pas trop leur tasse d'été, hein. Mais on n'arrête pas, on tape dessus tout le temps. Quelles sont les activités phares que vous conseillez aux gens là, dans votre programmation cette année?
Il y a cette activité, il y a le colloque, comme j'ai dit. Oui. Il y a aussi l'AFTQ qui présente le 24 en soirée. De 18h à 20h qui présente une conférence pour un syndicalisme antiraciste sans compromis. Okay. Il y a aussi une activité du centre Justice et Foi de 19h à 21h30, toujours le 24. Eux, c'est surtout une conférence publique. Elle est en Zoom. Donc, c'est des activités en Zoom. Ensuite, il y a une conférence dans le cadre du 66e Forum des Nations Unies. Il y a l'empowerment, en fait, le potentiel d'empowerment politique, économique et social des femmes dans celles issues des communautés autochtones et interculturelles au Québec. Et là, c'est aussi par Zoom, donc le 24 à midi. Okay. Vous avez aussi la pensée blanche, par exemple, du Magnificat. Ça aussi, c'est en virtuel. Donc, il y a plein d'activités. Vous pouvez aller sur le site web dans le calendrier pour voir toutes ces activités-là. Il y aurait aussi, par exemple, le 28, la CSN qui fait aussi une conférence des syndicats nationaux et centres des travailleuses et travailleurs migrants, immigration et inclusion à la vie syndicale. Donc, c'est par Zoom aussi. Donc, de Québec, vous pouvez y participer. Vous avez aussi une table ronde virtuelle avec Arbre du Voyageur. Donc, ça va être la montée du racisme en France par rapport au Québec, donc une comparaison. Ça va être le 27 à 11h, de 11h à 13h, c'est en Zoom aussi. Donc, je vous dis juste les activités qui sont en Zoom pour que vous puissiez y assister à partir de Québec.
Oh, super. Une belle programmation qu'on peut retrouver sur sacr.ca. Dernière question.
Exactement.
Dernière question. Vous êtes très impliqué dans la lutte contre le racisme au Québec depuis plusieurs années. Une lutte, c'est faite des petites avancées, de reculs, etc. Nous, les militants, nous sommes souvent critiques, mais parfois, il faut s'arrêter pour regarder le chemin parcouru et dire quelles sont les avancées qu'on a accomplies. Vous, de votre point de vue en tant que militante contre le racisme et contre les inégalités au Québec, je vais vous poser une question à deux volets. Là. Quelles sont les avancées que nous avons eues, que les militants ont eues au Québec depuis, disons, 2010, depuis 2011? Puis, en même temps, quels sont les défis qui restent devant nous? Je vous laisse y aller pour la dernière question. Là. Okay. Je vous laisse y aller.
OK. Les avancées, je pense que la meilleure avancée, à mon sens, c'est la mobilisation des jeunes. C'est la mobilisation qu'on a vue des jeunes ces dernières années. Et malgré la pandémie, malgré tout, les jeunes sont restés mobilisés. Et puis, ça a fait comme une boule de neige. Et il y a eu énormément d'adhésions de jeunes à ce mouvement-là. Que ce soit le mouvement Idle No More de, avec Mélissa Mollen-Dupuis, que ce soit avec George Floyd, que ce soit avec Joyce et Echaquan, Camara, toutes ces personnes-là, leur mort, je dirais, n'est pas vaine. Je pense, à mon sens, n'est pas vaine, dans le sens où elle a pu mobiliser beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes et beaucoup de personnes. Et sensibiliser beaucoup de gens qui n'arrivaient pas à parler et puis que maintenant, leurs langues se sont délayées. Donc ça, pour moi, c'est une très grande avancée, énorme. Une autre avancée, c'est que quand même, le gouvernement canadien reconnaît le racisme systémique très ouvertement et essaye de mettre des actions en place pour le contrer. Et les différentes formes de racisme systémique, que ce soit l'islamophobie, l'antisémitisme, l'homophobie, etc., etc. Donc le racisme anti-noir et j'en passe. Au niveau du gouvernement provincial, c'est sûr qu'il y a eu déjà une avancée quand même pour qu'on crée un bureau, le ministre de l'Environnement et de la lutte contre le racisme. Oui. Bon, ils n'ont pas de budget en tant que tel. C'est toujours le MIFI, le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, qui continue à financer la SACRE et pas du tout la lutte contre le racisme. Ce qui est pour moi, à mon sens, qui est un petit peu comme... pas normal,
pas spécial,
logique, hein. mais c'est leur gestion interne, je ne peux pas m'immiscer de cette gestion-là. Ouais. Toujours est-il, ce qui est déplorable, c'est que le caractère systémique ne soit pas reconnu dans cette lutte-là. Et troisième point, ce qui est déplorable aussi, c'est qu'on ne reconnaisse pas que tous les Canadiens et Canadiennes, nous sommes là en tant que collants.
Ouais. La question autochtone.
Exactement, que la question autochtone, on parle de racisme systémique, mais on oublie qu'on a colonisé les Premières Nations.
Ça fait.
Et qu'ils n'ont même pas droit de parole des fois. Ils peinent à avoir une tribune. Ils peinent à avoir leurs droits. Donc, pour moi, c'est contradictoire. C'est vraiment contradictoire, ces choses-là. Donc, moi, je suis pour reconnaître la prédominance des Premières Nations. Ouais. Et que on habite ici, ils nous ont accueillis. Je préférerais dire qu'ils nous ont accueillis.
Exactement.
Et que nous sommes là, mais qu'ils doivent avoir la première place. Et nous, la seconde place. Et pas le contraire.
Vous. Je suis tout à fait d'accord avec vous là-dessus.
Voilà.
Non mais bravo, merci beaucoup, hein, merci beaucoup de ce. Je pense qu'il faut rappeler la question autochtone, hein, parce que même nous, les personnes racisées, nous devrons rappeler cet enjeu-là, n'est-ce pas?
Tout à fait, définitivement.
Exactement.
Et tout à l'heure, Chef Picard l'a bien dit au lancement de la SACRE, c'est un fidèle de cette semaine-là, okay. Il est toujours présent. Et il a dit que la façon dont on a développé ce partenariat avec l'association des Premières Nations du Labrador et du Québec est un, comment il l'a dit exactement dans la phrase, il a dit que c'est un signe éloquent d'alliance et de partenariat.
Ah oui. Il le faut.
Et donc là, déjà, moi, je me sens très, très fière d'avoir insisté, d'avoir persévéré à toujours avoir les Autochtones avec nous, ensemble, pour faire cette lutte-là. Et je suis vraiment très fière de cet acharnement-là, parce qu'il l'a dit, que pour contrer le racisme systémique, ça prend une dose d'acharnement, et je pense que je suis une femme assez acharnée.
Ça, je peux le confirmer, par exemple. C'est bien, ça, je peux le confirmer, par exemple. Mais la question autochtone, c'est important, parce que vous savez quoi, Madame Laouni? Nous-mêmes, les personnes racisées ou les personnes immigrantes, on nous entraîne on nous conditionne, on nous socialise à l'ignorance de la question autochtone. Et donc, nous-mêmes, nous devenons ignorants, nous ne connaissons pas la réalité autochtone. Donc, nous avons l'obligation de nous cultiver aussi sur l'histoire et sur les enjeux des autochtones, parce que la suprématie blanche ou la domination blanche nous socialise à son ignorance. Hein. Et ça, je pense qu'il faut en être conscient aussi. Il faut en être conscient. Il faut refuser d'être socialisé à cette ignorance-là de la question autochtone.
Tout à fait.
Merci
tout
beaucoup, Madame Laouni. Alors, je rappelle
c'est que moi vous êtes... qui vous remercie pour votre invitation.
Alors, je rappelle que vous êtes coordonnatrice de la semaine d'action contre le racisme qui commence aujourd'hui et se termine le 31 mars. Vous pouvez aller sur le site de sacr.ca pour avoir toute la programmation à travers le Québec. Et puis à Québec, il y a la coalition, le collectif de lutte et d'action contre le racisme qui organise aussi des événements. Merci beaucoup et bonne semaine de lutte contre le racisme.
Merci, merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Mesdames et messieurs, vous êtes bien sur CKIA 88.3 FM à l'émission Dignité Noire, en compagnie de Mbaye et de mon cher Brice que j'ai le privilège ou l'honneur d'accueillir après cette petite pause pour parler de son grand projet qu'on appelle Trésor Afro. Trésor, ça veut dire qu'il y a l'argent dedans, il va nous en parler. Qu'est-ce qu'il veut faire avec ce beau trésor? Mesdames et messieurs, vous êtes bien sur CKIA 88.3 FM à l'émission Dignité Noire. Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook, sur les différents réseaux sociaux de Dignité Noire. Mais sur notre page Facebook, Dignité Noire-CKIA-FM, sur notre site web www.ckia.fm.org. Vous pouvez aller là. Si vous manquez nos émissions, ce n'est pas grave. Elles sont toutes archivées en balado. Fait que vous pouvez aller les réécouter si vous avez besoin de vous cultiver sur tout ce qui concerne les enjeux noirs. Alors aujourd'hui, pour terminer l'émission, là, je reçois nul autre que le metteur en onde de l'émission elle-même. Hein, Brice. Salut, Brice.
Salut, Mbaye.
Ça va bien?
Très bien, et toi?
Bon, alors, il faut parler dans le micro, là, parce qu'on
t'entend pas
très bien. Oui, ça, c'est bon, ça. Alors, aujourd'hui, on va vous faire découvrir Trésor Afro. Trésor Afro est un organisme dont l'objectif est de faire la promotion des entreprises détenues par les personnes noires de la ville de Québec et ses environs. Le Trésor Afro donc a créé un site web du même nom, Trésor Afro, dans lequel les consommateurs et consommatrices que vous êtes peuvent avoir accès aux produits et aux services d'ici et d'ailleurs offerts par les entrepreneurs noirs. Alors aujourd'hui, pour parler de Trésor Afro, je reçois bien sûr Brice, qui est son promoteur, ainsi que Madame Sende Naka, qui est une des entrepreneurs qui a enregistré son entreprise sur ce site-là. Bonsoir Madame Sende.
Bonsoir.
Ça va bien?
Je vais très bien, et vous?
Oh, très bien. Bienvenue sur Dignité Noire. Alors, j'ai le plaisir de vous accueillir avec Brice. Brice, à tout seigneur, tout honneur. Bravo, félicitations.
Merci beaucoup.
D'où vient cette idée, là?
Oh, ça fait, je pense que depuis 2020, on a nourri cette idée pour mettre sur un lieu commun toutes les entreprises fondées par les afro-descendants de la ville de Québec et ses environs et tout. Donc, l'objectif, c'est de vraiment faire connaître ces entreprises-là qui ont été fondées, co-fondées ou bien détenues par les afro-descendants qui vivent ici, ceux qui ont immigré et qui sont sur le territoire actuellement en train de bâtir l'économie de la ville aussi et ses environs, ou bien de la province en général. Donc, c'est ça. Donc, on a monté un site web où on peut vraiment, chaque entrepreneur ou bien promoteur d'entreprise peut aller pour enregistrer son entreprise. Donc, c'est comme enregistrer des entreprises afro-descendantes.
C'est payant? Est-ce que c'est un site payant?
Non, c'est totalement gratuit. La visibilité est gratuite. L'objectif, c'est de faciliter la recherche à toutes les personnes de, vivant dans la ville de Québec ou ailleurs, de pouvoir savoir mais qui a fondé quoi, à qui appartient quoi, c'est-à-dire qui fait qui et qui fait quoi exactement. Donc, si ces afro-descendants-là se réunissent ensemble et puis mettre leurs entreprises sur un seul site web, ça va nous faciliter la recherche, ça va donner l'opportunité à tous ceux qui vivent ici de connaître aussi ces
produits. Est-ce que ça répond à un besoin quelconque de la part des consommateurs ou des entrepreneurs noirs? Est-ce qu'il y avait un besoin quelconque?
Oui, ouais, le besoin, avec le retour qu'on a eu, on a senti que le besoin existait vraiment parce que c'est vraiment, il y avait un panier noir qui s'est étendu pendant la pandémie et tout. Le panier bleu, plus panier pardon. Bleu.
Bah, le trésor afro, c'est le panier noir.
On peut dire ça comme ça. Oui. Donc, il y avait le panier bleu qui s'était vraiment étendu. Ça a fait aussi son bonhomme de chemin.
Panier bleu qui est le site internet créé par le gouvernement du Québec pour faire donner la visibilité aux entreprises.
Locales, c'est ça.
Pendant la pandémie. Là.
Exactement. Donc, il y avait moins de ces entreprises afro-descendantes sur ce site-là qui étaient mis en avant. Donc, on a voulu quand même repliquer quelque chose du genre pour mettre en avant les nôtres aussi. Ça n'a rien d'exclusif. On n'exclut personne, en fait. Oui. Donc, c'est vraiment pour favoriser d'abord la recherche et aussi permettre à ces entreprises d'avoir une certaine visibilité, de se faire connaître et aussi de faire connaître leurs produits aussi.
Ça a été difficile de recruter les entreprises. Il y en a combien à la date?
Actuellement, il y en a une quarantaine.
Ça a été difficile de le recruter, les entreprises, les entrepreneurs?
Pas tant que ça. Au niveau de difficulté moyenne, quand même, il fallait d'abord, communiquer l'idée, adhérer les gens à l'idée et aussi, ensuite de ça, les inviter à remplir un formulaire qui va les permettre d'être automatiquement sur le site une fois que c'était mis en service. Donc, ça a été mis en service en juin dernier. Ça fait un an qu'on a le site web déjà. Et récemment, on a eu des pannes techniques qu'on a résolues avant le mois de l'histoire des Noirs en février dernier. Alors, actuellement, le site, il est totalement fonctionnel. Vous pouvez voir quelques articles là-dessus. Vous pouvez voir une quarantaine d'entreprises que vous pouvez rechercher.
Donc, comment ça se passe? Admettons, moi, je suis entrepreneur noir. Puis, peut-être que je vais parler avec Sandy, comment elle a fait pour y adhérer. Là.
Exactement.
Admettons, donc, là, Madame Naka, peut-être pour commencer... Vous êtes entrepreneur. Pouvez-vous présenter votre entreprise à nos auditeurs et auditrices? Je rappelle que vous êtes de Montréal, si je ne me trompe pas.
Tout à fait.
Parfait. Alors, c'est une petite présentation de vous et de votre entreprise, peut-être?
Oui, bien sûr. Donc, pour parler un petit peu de moi, donc, je m'appelle Sandé. En fait, je suis originaire de Côte d'Ivoire. Et puis, ça fait une dizaine d'années que je vis au Québec. Okay. Donc, j'ai fait mes études ici universitaires.
À Laval ou à Montréal? À Québec,
en fait,
ou à Montréal?
À Sherbrooke. Pas du tout. J'étais même pas à Montréal. J'étais à Sherbrooke.
D'accord.
Oui. Donc, ça fait à peu près 5 ans maintenant que je suis à Montréal.
Donc, vous avez une entreprise qui s'appelle Naturo Sendé.
Voilà.
Qu'est-ce que vous faites?
Naturo,
qu'est-ce que vous faites?
Justement, Naturo, c'est le diminutif en fait, de naturopathie qui est mon domaine. Okay. Et puis, Sendé, évidemment, c'est mon prénom.
Ah, d'accord.
Donc, en ce moment, j'ai une boutique en ligne de plantes médicinales et de suppléments africains pour le bien-être général, pour des besoins spécifiques, pour la spiritualité, même pour la vie sexuelle.
Ah oui?
Oui.
Ça fait quoi ça là?
Je ne sais pas si on peut le dire à l'antenne.
Ah oui, allez-y, nous on est open.
Il n'y a pas de tabou ici.
Disons que c'est pour pimenter un peu la vie sexuelle. Donc quand on va prendre des décoctions ou certaines tisanes, ben, ça va procurer plus de plaisir.
C'est vrai, ce truc-là marche vraiment. On parle beaucoup de... Les Haïtiens parlent de bois bandé.
Exactement, les Haïtiens. Mais nous aussi, Donc, je ne sais pas, M. Mbaye, d'où vous venez, mais on
moi,
a...
Moi, je viens du Tchad. Mais moi, je doute de l'efficacité de ces choses-là.
Monsieur Mbaye, je vais vous laisser. Moi, je viens de l'Afrique de l'Ouest. Et oui. C'est vraiment très connu, pas seulement dans mon pays, au Mali, en Guinée. Okay. Donc, il y a trois plantes en particulier. Je pourrais vous laisser les informations tout à l'heure.
Bah, dites-le, là, peut-être ça va intéresser les gens qui nous écoutent. Ils vont aller sur votre site.
Donc, y a les plantes, en fait, il y a le guéni.
Okay.
Le guéni, ou bien ça peut s'appeler tchouraï aussi. Okay. On a le gongolili ou okay. Le gongoli.
Ouais.
Et puis, on a les djeka.
Ah oui. Et oui. Donc, l'efficacité est prouvée, ça, ces trois plantes-là.
Donc, l'efficacité, monsieur Mbaye, pour parler de moi personnellement, j'ai essayé.
Ah oui. Et puis, ça a marché.
Ça marche en plus pour les deux sexes, hein, donc c'est pas juste pour la personne. Donc, y a, en fait, qu'est-ce que ça fait, en fait? C'est pas de la magie. Il y a des plantes, en fait, qui ont des propriétés astringentes. Donc, ça veut dire qu'au niveau de l'utérus, donc ça va se resserrer. Donc, quand l'utérus, le vagin, pardon, est resserré, donc l'homme a plus de plaisir. Après, il y a des plantes, en fait, qui favorisent la lubrification. Donc, wow. On sait qu'est-ce que ça fait. Donc, c'est pas, en fait, de la magie. Hein.
Ah,
donc...
c'est une émission chaude aujourd'hui. C'est chaud ce soir. Bon, parfait. Alors, comment on peut retrouver vos produits? Là, vous avez un site internet, tout ça?
Oui, mon site internet, c'est www.naturo, donc N-A-T-U-R-O, C-N-D, okay. Mon prénom, S-E-N-D-U-Y.com.
Parfait. Et comment vous étiez au courant de l'existence de trésors afro, vous qui êtes à Montréal, par exemple?
C'est en fait une recherche sur Internet. Parce okay. qu'en ce moment, moi, j'ai besoin de visibilité. Et puis, j'ai besoin aussi de connecter avec des entrepreneurs qui me ressemblent, qui comprennent mes valeurs, qui ont peut-être la même vision. Comme M. Brice a dit tout à l'heure, ensemble, on va aller loin. Donc, c'est pour ça. Donc, j'ai fait tout simplement des recherches et puis j'ai trouvé ça quand même facilement.
Ça n'a pas été difficile à s'enregistrer sur le site, là, Trésor Afro?
Non, le site est très bien fait. Hein, donc, c'est très clair. Ça prend quelques minutes. Tout va très bien. Hein.
Okay.
Franchement, je n'ai rien à dire.
Parfait. Brice?
Oui.
Là, au niveau des entrepreneurs, bon, là, vous offrez la visibilité. Hein, les gens s'enregistrent, tout ça. Est-ce qu'il y a autre service que vous offrez ou que vous pensez offrir aux entrepreneurs noirs de la ville de Québec ou de la province de Québec en termes de visibilité, etc.?
Oui, c'est sûr. Actuellement, avec nos partenaires stratégiques comme la table de consultation du mois de l'histoire des Noirs et également aussi Révolution Croissance, nous développons quelques stratégies pour essayer de consolider un réseau d'affaires pour ces entreprises-là. Principalement avec Révolution Croissance. Rien n'est encore concret. Tout est en débat et puis en évolution actuellement. Et également, on a des stratégies de pérennisation pour le site internet avec la table de consultation du mois de l'histoire des Noirs. Donc, c'est des idées qui sont sur table à développer avec ces partenaires stratégiques-là. Donc, okay. On travaille quand même à chaque semaine, on se réunit quand même pour avancer un peu sur les projets du site web, même si on y va un peu à pas de tortue, mais on va quand même y arriver.
Il va lentement, va sûrement. Là, c'est intéressant, ton projet, là, parce que aujourd'hui, on parle beaucoup de diversité, etc. Mais il faut des lieux hein, pour que les gens se rencontrent, se communiquent. Et donc, ton site internet permet aux gens qui veulent consommer diversité d'aller là-bas, d'aller concrètement là-bas. Retrouver quels sont les commerces issus de la diversité. Moi, j'ai eu des amis qui disaient oui, mais pendant le mouvement Black Lives Matter, ils cherchent des commerces noirs à Québec.
C'est quoi les entreprises on va acheter
ça,
dedans,
ils connaissent
c'est
pas.
Quoi les épiceries c'est...
Exactement.
Ouais, ils savent pas même l'épicerie, surtout dans quel coin de leur quartier. Tout
mais alors, est-ce que vous avez des partenaires institutionnels comme la ville de Québec? Parce que bon, on voit nos politiciens chanter diversité à longueur de journée. Là. Est-ce qu'ils appuient des projets comme ça?
Mais techniquement, au début, on a le maire de la ville de Québec, l'ancien maire, si je vais
sur
le dire.
Sur la bombe.
Exactement, qui nous a soutenus avec une vidéo qui se trouve sur le site web aussi, avec son conseiller. Actuellement aussi, il est dans l'actuel conseil.
Pierre-Luc Lachance.
Pierre-Luc Lachance. Ouais. Il est avec l'actuel maire également, qui nous ont quand même boosté, qui nous ont soutenus tout au début. Mais à part ça, il n'y a pas eu... on sait que déjà avec la table de consultation du mois de l'histoire des Noirs, il y a déjà la ville de Québec qui nous soutient par là parce qu'on organise des événements avec la table, ce qui fait qu'on a quelques subventions pour organiser ces événements-là. Donc, je remercie également madame aussi qui s'est inscrite sur la plateforme pour aussi montrer ce qu'elle fait à nos compatriotes ici de la ville de Québec dans ces domaines-là qui sont un peu rares, qui sont un peu tabous aussi. On va jouer notre rôle de donneur de visibilité et puis on va vous booster sur notre page Facebook, Instagram et tout pour que vous vous faites connaître ici dans la ville de Québec vu que vous êtes déjà à Montréal et tout.
Ben c'est ça, je reviens à Madame Naka. Est-ce que vous avez de la clientèle ici à Québec, Madame Naka?
Non, pas à Québec encore. Okay. Ma clientèle vient essentiellement de Montréal, sinon même de l'Ontario.
Ah oui?
Oui.
Mais aussi, ils ont des problèmes
parce
là-bas.
Parce qu'il y a des Africains partout, en fait. Hein. Donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, moi, je n'invente rien. Okay. La seule différence, en fait, oui, je propose en fait des remèdes ancestraux. Donc, je n'ai rien inventé. C'est juste qu'aujourd'hui, moi, avec mon expertise, parce que je vais proposer quelques consultations de naturopathie, donc j'ai fait des études pour ça, je peux expliquer pourquoi on a tel effet sur une plante, mais en gros, je n'ai rien inventé. Hein. Okay. Donc,
là, vous importez vos produits de Côte d'Ivoire ou d'Afrique de l'Ouest?
Oui, ça vient du Mali et de Côte d'Ivoire, c'est ça.
Bah, mais grâce à vous, j'ai découvert les trois écorces là, que vous avez citées tantôt, vous ne savez pas, fait que je vais aller en commander.
Oui,
on peut se faire livrer.
Je vais tester et je vous dirai.
Oui, s'il vous plaît.
Alors, comment on peut acheter vos produits? Donc, vous livrez aussi, c'est ça? Vous faites la livraison?
Oui, en fait, je propose le ramassage à Montréal, okay, à trois endroits. Ça, c'est gratuit. Et puis, la livraison partout dans le Canada.
Par la poste?
Oui, en fait, par Poste Canada, il y a plusieurs partenaires. Donc, il y a DHL, Purolator, ouais, il y a Courrier. En fait, je fais affaire avec au moins 15 partenaires là.
Et puis, ça marche bien.
Pour retrouver le meilleur.
Est-ce que ça marche? Vous avez de la clientèle? Les gens sont... ça fait 5 ans que vous existez, là. Comment ça se marche? Oui.
Je vais vous dire que, en fait, je ne peux pas parler de est-ce que ça marche vraiment parce que j'ai commencé il n'y a pas longtemps. Okay. J'ai commencé au mois de septembre.
Ah donc oui, c'est récent.
Oui, c'est tout récent. Et okay, pour vous dire, moi, je n'ai pas eu de financement, donc je suis sur mes propres fonds. Donc, okay, vous comprenez la difficulté là.
Mais lancer une entreprise en pleine pandémie, ça ne doit pas être facile non plus, là, j'imagine.
Non, c'est pas facile, mais c'est quelque chose en fait que j'avais dans la tête depuis des années en fait.
Okay.
Et puis, à un moment donné, il faut se lancer. Hein, donc, de toute manière, moi, je vois l'entrepreneuriat comme une course avec plein d'obstacles. Donc, la pandémie, c'est un obstacle, mais il y en a toujours sur le chemin. Donc, si j'avais commencé maintenant ou plus tard, il y en aura toujours des problèmes. Donc
vous avez étudié la naturopathie à l'université, dans le fond?
Non, en fait, à l'université, moi, j'ai étudié l'informatique.
Ah oui?
Oui, donc ça n'avait rien à voir.
Vous avez changé complètement?
Oui, j'ai des parents africains. Hein, donc moi, j'ai toujours voulu faire quelque chose dans le bien-être. Je ne sais pas si je voulais faire la nutrition ou bien le sport, quelque chose comme ça, toujours dans le bien-être. Et puis, bon, ils m'ont dit, non, c'est pas possible. Hein, tu fais des choses qui rapportent de l'argent. Donc, tu as le choix, l'administration, l'économie, l'informatique. Tu fais ce que tu veux. On ne peut pas investir dans des choses comme ça.
Ouais.
Donc, j'ai fait qu'est-ce qu'ils m'ont dit. De toute manière, c'était équiper mes études. Ouais. Mais moi, je veux dire, j'ai une passion. Une passion, on peut effacer comme ça. Quand j'ai commencé à payer mes factures, j'ai commencé à me prendre en main. J'ai décidé de me lancer dans ce que je voulais faire.
Vous avez fait les études en informatique pour vos parents, et puis là, maintenant, vous faites votre chose que vous aimez.
Oui, voilà, j'ai eu quand même un bon temps. En fait, j'ai fini en 2017, hein, donc j'ai attendu pour bien mûrir l'idée. De toute manière, je veux dire, entrepreneuriat, il n'y a pas nécessairement d'école pour ça, et c'est vraiment sur le terrain. Chaque jour, il y a des défis, on apprend, on devient meilleur. Donc, c'est comme ça que je vois.
Tout à fait. Mais là, pour en revenir, il nous reste quoi, 4-5 minutes. Pour en revenir à Trésor Afro, là, quel est le potentiel que qu'est-ce que vous attendez du Trésor Afro comme entrepreneur, là, jeune entrepreneur?
Comme jeune entrepreneur, ce que j'attends de Trésor Afro, c'est forcément de la visibilité, de la connexion avec d'autres entrepreneurs. Parce que moi, je suis peut-être dans ce domaine-là, il y a peut-être des coachs sportifs. Donc tout ça se relie à tout ce qui est bien-être, santé. Donc moi, je suis ouverte. Il y a peut-être des massothérapeutes. Je veux dire, les connexions sont très intéressantes. Et puis, vous avez aussi parlé d'expertise. Donc, moi, si je peux être en contact avec des experts, en tout cas, que ce soit pertinent dans mon domaine, je ne peux pas refuser ça. C'est toujours bénéfique pour moi.
Ouais. Est-ce qu'il y a des, comme entrepreneur noir, là, quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face comme jeune, bah, surtout les jeune entrepreneur, non?
Oui, les difficultés, mais en fait, c'est, vu que moi, présentement, je mets en avant ma culture, ma culture dans, en Occident, ça ne se vend pas bien. Les gens, ils pensent à la guerre, quand ils pensent à l'Afrique, à la pauvreté, à la malnutrition et tout ce qui va avec. Donc, y a, les gens sont sceptiques un peu. Ce n'est pas tout le monde qui est ouvert d'esprit. Donc, ça, c'est une difficulté. Par rapport à l'entreprise, ben, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, en tant que minorité, ben, j'ai pas d'accès au financement. C'est un peu plus difficile. Hein. Je ne dis pas que c'est facile pour n'importe qui, mais quand on est une minorité, c'est encore plus difficile. Donc, je pars sur mes propres fonds, donc je me sers la ceinture, c'est pas évident, quoi.
Tout à fait. Ouais, ça, l'accès au capital, là, c'est quelque chose qui revient souvent.
Oui, mais c'est pas ça qui va m'arrêter, mais il faut dire que c'est quand même un problème, c'est une difficulté.
Mais là, pour le début, vous avez investi vous-même vos fonds là-dedans, là, dans votre entreprise.
Oui, ben, je continue de le faire, en fait. Ça sera comme ça tout le temps. Donc, c'est pour ça, ben, c'est pas bien grave, comme j'ai expliqué pour moi, comme on dit en anglais, entrepreneurship is a journey, not a destination. Ouais. Donc, pour moi, c'est correct avec ça.
Tout à fait.
Donc, je vais aller tranquillement, mais sûrement, voilà.
Bah, comptez-moi parmi vos clientèles, je vais acheter pour vous appuyer. Non, mais Brice, je ne parle pas des trois produits qu'elle a cités, là, je veux juste acheter quelque chose pour l'aider. Brice,
je connais des amis qui seront intéressés par ces produits. Quand on va finir, là, je vais envoyer son lien à mes amis qui seront intéressés. Je connais déjà.
Madame Nanka, il y a des gens qui ont le problème ici dehors.
Il y a des gens qui m'ont déjà
commandé. Moi, je suis là pour régler les problèmes, donc ça tombe bien.
Ah oui, et je vois, surtout avec la pandémie, là, j'écoutais quelque part, là. J'écoutais, mais ça, c'est un problème réel, c'est un problème de santé publique. Pendant la pandémie, ils disent que la consommation de Viagra, tout ça a bondi. Les gens achètent beaucoup.
Oui, en plus, c'est dommage que ce soit tabou, en fait.
Oui, non, c'est pas tabou.
C'est quelque chose d'assez naturel. On peut parler de sport comme de vie sexuelle, c'est normal.
Exactement.
Même de spiritualité, je veux dire, chacun doit faire ce dont il a besoin pour se sentir bien et puis il faut s'aider. Hein.
Non, mais la santé sexuelle, c'est important. Il ne faut pas négliger ça aussi. Fait que voilà.
Oui.
Alors, je me dis, voilà, il y a un marché. Là. Pendant la pandémie, les gens consomment beaucoup Viagra, Cialis. Fait que vous pouvez aller sur votre site internet aussi.
Pour les internautes, que je ne fais pas que proposer des produits.
Ouais, je comprends.
Pour la vie sexuelle. C'est important quand même. Hein,
on rigole. Mais voilà, quels sont les. Parlez-nous un peu de vos produits, là. À part les trois dont on rigole, là, mais ça, c'est pour rigoler. Mais je pense que vous offrez aussi d'autres écorces naturelles, tout ça, non?
Oui, tout à fait. En fait, vous connaissez le Bissap, n'est-ce pas?
Oui, Bissap. Oui, moi, j'adore ça.
Voilà.
C'est un diurétique, hein, je pense. Ouais.
Tout à fait. Donc, ça, tout le monde consomme ça pour. Comme des jus, voilà, des jus santé. Il ne faut pas oublier que c'est quand même santé. Hein. C'est toujours mieux que boire des jus commerciaux dont on ne connaît pas les ingrédients. Là, quand on boit du Bissap, on sait que ça vient d'une plante, il y a des nutriments dedans. C'est très intéressant pour la santé. Attention à ne pas trop sucrer, toujours, ça c'est le problème.
Okay.
Mais sinon, c'est un jus santé. Je pense que vous connaissez le moringa. Aujourd'hui,
oui,
tout le monde connaît le moringa.
Bien sûr.
Beaucoup de gens proposent de la poudre de moringa, mais le goût n'est pas... Ça passe pas pour tout le monde, en fait.
Les feuilles, c'est mieux.
Les feuilles, en fait, oui, quand on prend la tisane, ça a un goût assez neutre. Donc, ça passe très bien. Okay. Et ces feuilles-là, en fait, sont très riches en fer. Et il y a beaucoup de nutriments aussi. Donc, c'est intéressant, en fait, pour la santé générale, pour les gens qui sont fatigués. Ça donne de l'énergie.
Ouais, le moringa, je prends. Quand je vais en Afrique, j'en achète souvent.
Moringa parce que,
oui.
Ouais, c'est très bien, moringa, parce que ma mère utilisait ça comme feuille pour manger de la pâte, en fait. Donc, comme une sauce, quoi.
Okay.
On utilise
exactement.
C'est comme une sauce, tu vois.
Il y a des sauces qui sont
à base de
qu'on moringa. Peut faire avec, on peut ajouter dans des smoothies, on peut boire la tisane. Vraiment, on consomme comme on veut.
Exactement.
Moi, j'utilise beaucoup la poudre.
Okay.
Oui, bon, la poudre, moi, personnellement, je n'aime pas trop. Parce que je trouve que le goût est un peu corsé.
Il y a l'huile aussi, hein. Il y a l'huile de
oui, tout à fait. L'huile pour la peau, c'est très intéressant.
Parfait. Alors, merci beaucoup, madame Naka. Donc, je rappelle que vous êtes entrepreneur de Naturo Sende. Pouvez-vous rappeler encore votre site internet?
C'est www.naturosende.com. Donc, NaturoSendey.
Parfait. On invite les gens à y aller là-dessus, voir vos produits. Dernier mot, Brice, 30 secondes. Oui, le futur, c'est quoi le futur pour le Trésor Afro? Vous avez des projets qui s'en viennent?
Oui, bien sûr, on remercie.
Cinema Politica invites you to a free in-person screening of Dope is Death, followed by a discussion with director Mia Donovan, April 4th. In 1973, Dr. Mutulu Shakur, along with fellow Black Panthers and the Young Lords, combined community health with radical politics to create the first acupuncture detoxification program in America. This form of radical harm reduction was a revolutionary act towards the government programs that transfixed the lives of Black and Brown communities throughout the South Bronx. This film tells the story. Join us on Monday, April 4th, 7 p.m., room H110, 1455 de Maisonneuve West. Donations encouraged. CinemaPolitica.org or find us on social media. This is a CKUT Radio co-presentation.
À qui les donner? À nous les donner!
Lorsqu'on ne paye pas pour un produit, on est le produit. Particulièrement dans le cas de l'hébergement des courriels et des sites web où les compagnies multinationales se battent pour les profits produits par les magnifiques communications de vos organisations. Kumbit est une coopérative de travail qui essaye d'aider les petites organisations ou les particuliers à se réapproprier leurs communications par l'hébergement de courriels et de sites web ainsi que par la création de sites web. Si c'est votre désir, contactez-nous à kumbit.
What's up, everybody? You're tuning in to Ask Miss Chris on CKUT FM. First of all, I want to start by saying thank you so much to everyone that donated last week for the fundraising. Listen, we're very, very, very close to the goal. So if you still have some money to give, if you still have something, a little coin you want to send our way, ckut.ca/donate. We're waiting for you, waiting for the funds. Now to my left and to my right, baddies to my left, baddies to my right, in the words of Nikki. Like I said on Instagram today, this episode is very, you know, we're getting into some things, and I felt like I had to bring major key player and the subject because we're talking about the Montreal nightlife. So on my left, I have DJ, producer, community organizer, artist, and just, you know, just community girl when it comes to throwing the parties and making people feel safe.
Yes.
If anything, is Mossy Mugler the one and only the Sag Queen to the left?
Yes, honey.
How are you feeling?
I'm feeling great. I'm excited to be in the studio.
Yes.
It's so much fun being at the radio station. It's like so much less pressure than being around people.
The only thing you have to do is sound nice.
Yeah, true. I can't promise that, though.
We'll try. And to my right, I have, she's not new to the show. She's been here before. Miss Sayana Barbie, you already know her. Sayana, introduce yourself.
What's up, everyone? It's Sayana, DJ, producer, and, you know, party girl, and much more, and much more. And there's much more. I do. But, yeah, I'm ready. Thank you for having me. And, yeah, we're going to get into some things, you know?
Now, Sayana, let's start with you, because a few days ago, you made a post.